Chapitre 24. Avant le dîner, Sipiagin appela sa femme dans son cabinet. Il avait besoin de causer avec elle en tête-à-tête. Il lui fit part de la triste situation de la fabrique. Il ajouta que Solomine lui faisait l'effet d'être un homme intelligent, quoiqu'un peu cassant, et qu'on devait continuer à être avec lui au petit soin. « Ah, si on pouvait l'attirer ici, quelle bonne affaire ce serait !» dit-il à deux reprises. Sipiagin était fort vexé de la présence de Kalometsev. « Diable soit de lui, il voit partout des nihilistes, et il ne pense qu'au moyen de les exterminer. Eh bien, qu'il aille les exterminer chez lui, il n'est pas capable de tenir sa langue. » Madame Sipiagin lui fit observer qu'elle ne demandait pas mieux que d'être au petit soin avec le nouveau visiteur, mais que celui-ci avait l'air de n'avoir aucun besoin de ses petits soins et de n'y pas faire la moindre attention. Ce n'est pas qu'il fût grossier, mais il était indifférent à tout, chose très étonnante de la part d'un homme du commun. « N'importe, fais de ton mieux, je t'en prie, » lui dit Sipiagin. Madame Sipiagin promit de faire de son mieux, et elle tint parole. D'abord, elle eut un entretien en tête-à-tête avec Kalometsev. Nul ne sait ce qu'elle lui dit, mais il vint se mettre à table avec l'air d'un homme qui s'est juré à lui-même de rester calme et discret, quoi qu'il puisse entendre. Cette résignation anticipée donnait à tout son être une légère teinte de mélancolie. Mais aussi quelle dignité! Oh, qu'il y avait de dignité dans chacun de ses mouvements! Madame Sipiagin présenta Solomine à toutes les personnes de la maison. Il considéra Marianne plus attentivement que les autres, et elle le fit asseoir à table à sa droite. Kalometsev était à sa gauche. En dépliant sa serviette, il cligna des yeux et sourit comme pour dire « Allons, messieurs, jouons la comédie ». Sipiagin était en face et le suivait du regard, non sans anxiété. Par suite de la nouvelle disposition des places, Nejdanov n'était plus le voisin de Marianne. On l'avait placé entre Sipiagin et Anne Zakharovna. Marianne trouva son billet, c'était un dîner de cérémonie, sur sa serviette entre Kalometsev et Kolia. Le dîner était admirablement servi. Il y avait même, devant chaque couvert, un menu écrit sur une petite feuille à sujet colorié. Aussitôt après le potage, Sipiagin ramena l'entretien sur sa fabrique et en général sur la production industrielle en Russie. Solomine, selon sa coutume, répondait par phrases très brèves. Dès qu'il commençait à parler, Marianne fixait ses yeux sur lui. Kalometsev, assis près d'elle, lui dit quelques amabilités, pour éviter, ainsi qu'il l'avait promis, d'engager une polémique. Mais elle ne l'écoutait pas. Du reste, il débitait ses compliments sans conviction, par acquis de conscience, sentant fort bien qu'entre cette jeune fille et lui, il y avait un abîme qu'il ne pouvait franchir. Quant à Nejdanov, quelque chose de pire encore s'était interposé entre lui et le maître de la maison. Sipiagin le considérait désormais comme un simple meuble, ou comme un espace vide. Positivement, il avait oublié jusqu'à son existence. Cette nouvelle situation s'était établie si vite et si complètement que Nejdanov, ayant prononcé quelques mots pendant le dîner pour répondre à une remarque d'Anna, Sipiagin tourna la tête avec étonnement, comme s'il se fût demandé d'où partait ce son-là. Évidemment, Sipiagin possédait quelques-unes des qualités qui distinguent spécialement nos hauts dignitaires russes. Après le poisson, Valentine, qui prodiguait toutes ses avances et toutes ses séductions du côté droit, c'est-à-dire vers Solomine, dit en anglais à son mari à travers la table « Notre hôte ne boit pas de vin. Peut-être prendrait-il de la bière. » Sipiagin se hâta de crier « De l'ale !» Mais Solomine, se tournant tranquillement vers Valentine, « Madame, vous ignorez probablement, lui dit-il, que j'ai passé plus de 2 ans en Angleterre, et que je comprends et parle l'anglais. Je vous informe de ceci, pour le cas où vous désireriez dire quelque chose en secret devant moi. » Valentine s'empressa de lui assurer en riant que cette précaution était inutile, car il n'aurait entendu sur son compte que des choses favorables. Au fond de son âme, elle trouva cette démarche de Solomine un peu étrange, mais délicate à sa façon. Kalometsev ne put se contraindre plus longtemps. « Vous avez été en Angleterre, commença-t-il, et vous connaissez probablement les mœurs de ce pays. Permettez-moi de vous demander si elles méritent d'être imitées. » « Sur certains points, oui, sur d'autres, non. » C'est court et peu clair, riposta Kalomitsev, en évitant de voir les signes que lui faisait Sipiagin. Mais tenez, vous parliez des nobles tantôt. Vous devez avoir eu l'occasion d'étudier sur place ce que les Anglais appellent « landed gentry ». Non, je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai vécu dans une toute autre sphère, mais je me suis fait une opinion sur ces messieurs. Ah, eh bien, pensez-vous que l'existence d'une pareille landed gentry soit impossible chez nous, et qu'en tout cas cela ne soit pas à désirer? Je crois en effet, d'abord, que c'est impossible, ensuite que ce n'est pas désirable. Pourquoi donc, mon cher monsieur Solomine? Ce cher monsieur avait pour but de rassurer Sipiagin, qui avait l'air fort inquiet et qui s'agitait sur sa chaise. Mais parce que dans 20 ou 30 ans d'ici, votre landed gentry disparaîtra toute seule. « Mais permettez, mon cher monsieur, repartit Kalomitsev, qu'est-ce qui vous fait croire cela ?»« Je vais vous le dire. À cette époque, la terre appartiendra au propriétaire sans distinction d'origine. »« Au marchand ?»« Pour la plus grande part, au marchand, c'est probable. »« Et de quelle façon cela se fera-t-il »« Les marchands achèteront la terre, tout simplement. »« Aux nobles ?»« À messieurs les nobles. » Kalomitsev sourit d'un air de condescendance. Vous disiez la même chose tantôt, si je m'en souviens bien, à propos des fabriques et des établissements industriels. Et maintenant, vous parlez du sol tout entier. Et maintenant, je parle du sol tout entier. Et vous serez enchanté de ce résultat, je suppose. Pas le moins du monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le peuple n'en sera pas plus heureux. Kalomitsev leva légèrement une main. Quelle sollicitude pour le peuple! Monsieur Solomine, cria Sipiagin à tue-tête, on vous a apporté de la bière. Voyons, Siméon, ajouta-t-il à demi-voix. Mais Kalomitsev était lancé. À ce que je vois, reprit-il en s'adressant de nouveau à Solomine, vous n'avez pas des marchands une opinion favorable. Pourtant, ils sont du peuple, par leur origine. Parfaitement. Je pensais que tout ce qui appartient au peuple, de près ou de loin, vous semblait parfait. Oh non, monsieur, vous aviez grand tort de penser cela. Notre peuple mérite des reproches sur bien des points, quoiqu'il ne soit pas toujours coupable. Nos marchands, jusqu'à présent, sont des hommes de proie. Ils gouvernent leurs propres affaires en hommes de proie. Que faire? On est écorché, on écorche. Quant au peuple? Quant au peuple, répéta Kalomitsev d'une voix flûtée, c'est un grand endormi. Et vous désirez le réveiller? Ce ne serait pas si mauvais. Ah ah, voilà ce qu'il nous faut. Permettez, permettez, intervint Sipiagin d'un ton impératif. Il comprenait que le moment était venu de poser une barrière, et il la posa, cette barrière. Appuyant le coude de son bras droit sur la table et agitant en l'air, à droite, à gauche, la main de ce même bras, il prononça un discours long et détaillé. D'une part, il loua les conservateurs, et d'autre part, il approuva les libéraux, en accordant une légère préférence à ces derniers, dont il déclara faire partie. Il exalta le peuple, mais non sans indiquer ses côtés faibles. Il exprima une entière confiance dans le gouvernement, mais il se demanda si tous ses subordonnés se conformaient à ses intentions paternelles. Il proclama l'utilité et l'importance de la littérature, mais en faisant observer qu'une modération absolue était la condition sine qua non de son existence. Il tourna ses regards vers l'Occident. D'abord il se réjouit, puis il éprouva des doutes. Il tourna ses regards vers l'Orient, il eut d'abord une impression de tranquillité, puis il rebondit plein d'espoir. Et finalement, il proposa un toast à la triple alliance de la religion, de l'agriculture et de l'industrie. Sous l'égide du pouvoir, ajouta Kalomitsev d'un ton sévère. Sous l'égide d'un pouvoir sage et bienveillant, reprit Sipiagin. Les convives burent en silence. L'espace vide situé à gauche de l'orateur, en d'autres termes, Nejdanov émit, il est vrai, une parole désapprobatrice. Mais n'ayant éveillé l'attention de personne, il redevint silencieux. Et le dîner, que nulle discussion nouvelle ne vint troubler, atteignit heureusement le bout de sa carrière. Valentine, avec son plus ravissant sourire, offrit une tasse de café à Solomine. Il ne la prit pas, et déjà il cherchait des yeux son chapeau, lorsque Sipiagin, passant doucement la main sous son bras, l'entraîna dans son cabinet et lui offrit premièrement un excellent cigare. Secondement, il lui proposa de venir gérer sa fabrique à lui, Sipiagin, dans les conditions les plus avantageuses. Vous serez le maître absolu, monsieur Solomine, le maître absolu. » Solomine accepta le cigare, mais refusa la proposition. Les plus pressantes sollicitations de Sipiagin ne purent l'ébranler. « Au moins, ne me dites pas d'emblée non, mon cher monsieur Solomine. Dites-moi que vous réfléchirez jusqu'à demain. » »« Mais ce sera bien la même chose, puisque je ne peux pas accepter. » »« Jusqu'à demain, je vous en prie. Qu'est-ce que cela vous coûterait ?» Solomine fut forcé de convenir qu'en effet cela ne lui coûterait rien. Toutefois, en sortant du cabinet, il se remit à chercher son chapeau. Mais Nejdanov, avec qui, jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas eu l'occasion d'échanger une parole, s'approcha de lui et lui dit vivement « Ne partez pas, je vous en supplie, car nous ne pourrions pas causer. » Solomine laissa en paix son chapeau. Du reste, en ce moment, Sipiagin, le voyant errer d'un air irrésolu dans le salon, lui cria « Vous passez la nuit chez nous, n'est-ce pas? Ça va sans dire. » « À vos ordres, » répondit Solomine. Marianne, de l'embrasure d'une fenêtre, lui jeta un regard si reconnaissant qu'il en devint tout pensif. Chapitre 25. Avant de voir Solomine, Marianne se l'était figuré tout autre. Au premier coup d'œil, il lui parut bien terre à terre, comme le premier venu. Décidément, elle avait vu dans sa vie beaucoup d'hommes comme lui, blonds, maigres et musculeux. Mais, à mesure qu'elle le regardait et qu'elle écoutait ses discours, elle sentait grandir en elle un sentiment de confiance. C'était bien de la confiance et pas autre chose qu'il lui inspirait. Cet homme à l'air tranquille, non pas gauche, mais un peu lourd, ne pouvait être ni menteur ni vantard, et l'on devait pouvoir s'appuyer sur lui comme sur un mur de pierre. Il ne trahirait pas. Mieux que cela, il saurait vous comprendre et vous soutenir. Marianne finit par se persuader que Solomine devait faire naître cette impression non seulement chez elle, mais chez tous ceux qui étaient présents. Elle n'attribuait pas une importance particulière à ce qu'il disait. Toutes ces discussions au sujet des fabriques et des marchands ne l'intéressaient guère. Mais ce qui lui plaisait extrêmement, c'était la façon dont il disait ces choses, c'était le regard, le sourire dont il les accompagnait. C'était un homme véridique. Voilà ce qui était l'important à ses yeux, voilà ce qui la touchait. Chose certaine, quoique difficile à expliquer, les Russes sont les gens les plus perdus de mensonges du monde entier, et ils n'aiment, ils n'estiment rien tant que la vérité. En outre, aux yeux de Marianne, Solomine était ceint d'une espèce d'auréole. Il était de ceux que Vassili Nikolaïevitch recommandait à ses adhérents. Pendant le dîner, Marianne avait échangé, à son sujet, des regards avec Nejdanov, et vers la fin du repas, elle se surprit à faire entre eux une comparaison qui n'était pas à l'avantage de Nejdanov. Nejdanov, il est vrai, avait les traits beaucoup plus fins et plus agréables, mais son visage exprimait un mélange de sentiments inquiets, du dépit, du trouble, de l'impatience et même un certain abattement. Il avait l'air d'être assis sur des aiguilles. Il essayait de parler et il se taisait brusquement. Son rire était forcé. Solomine, au contraire, quoiqu'il semblât s'ennuyer un peu, était là comme chez lui. Rien qu'à le voir, on sentait que la manière d'être de cet homme était absolument indépendante de celle des autres. « Décidément, je lui demanderai conseil, » pensa Marianne. « Il me dira certainement quelque chose d'utile. » C'est elle qui lui avait dépêché Nejdanov après le dîner. La soirée s'écoula d'une façon assez terne. Heureusement, le dîner s'était terminé fort tard, et la nuit n'était pas loin. Kalomeitsev boudait poliment et se taisait. « Qu'avez-vous ? » lui dit Madame Sipiagin d'un air mi-sérieux, mi-plaisant. « Auriez-vous perdu quelque chose ?»« Précisément, » répondit Kalomeitsev. « On raconte qu'un de nos généraux de la garde se plaignait de ce que ses soldats avaient perdu leur talon. « Qu'on me cherche ce talon » s'écriait-il. « Et moi, je dis, qu'on me cherche le daignez ordonner, monsieur. Le monsieur a disparu, et avec lui tout respect et toute subordination. » Madame Sipiagin lui déclara qu'elle ne l'aiderait pas dans sa recherche. Encouragée par le succès de son speech du dîner, Sipiagin prononça deux autres petits discours. Il se livra à des considérations gouvernementales sur certaines mesures indispensables. Il lança même des mots, à grande portée plutôt que fin, qu'il avait préparés spécialement pour Pétersbourg. Il répéta même un de ces mots, qu'il fit précéder de la formule « S'il m'est permis de m'exprimer ainsi ». C'était à propos d'un des ministres au pouvoir en ce moment-là. Il le traita d'esprit inconstant et vain, toujours tendu vers des buts chimériques et illusoires. D'un autre côté, Sipiagin, n'oubliant pas qu'il avait affaire à un Russe, à un homme du peuple, eut grand soin d'employer certaines expressions destinées à prouver qu'il était lui-même un vrai Russe, tout ce qu'il y a de plus russe, et que les arcanes même de la vie de son peuple lui étaient familiers. Ainsi, Kalomeitsev ayant fait remarquer que la pluie pouvait gâter la récolte de foin, il lui répondit immédiatement par le dicton « Si le foin est noir, le blé sarrasin sera blanc ». Il cita aussi une série de proverbes tels que « La marchandise sans le marchand est comme une orpheline ». « Mesure le drap 10 fois avant de le couper une ». Quand il y a du blé, les boisseaux ne manquent pas. Lorsqu'à la Saint-Georges, les bouleaux ont des feuilles larges comme un liard, tu mettras le blé dans la grange pour la fête de Notre-Dame de Kazan. Il lui arriva bien 2 ou 3 fois de se blouser et de dire par exemple, en confondant 2 proverbes, que le courlis reste à son perchoir, ou bien l'or de la cage nourrit l'oiseau. Mais la société, au milieu de laquelle ces accidents lui arrivaient, ne soupçonnait même pas que notre Russe pur sang venait de donner à côté. Et d'ailleurs, grâce au prince Kovrychkin, elle était déjà habituée à de semblables pataquès russes. De plus, Sipiagin prononçait ses adages et ses sentences d'une voix spéciale, forte et même un peu grosse, d'une voix rustique. Ses sentences, débitées à Pétersbourg en temps et lieu convenable, faisaient dire aux hautes puissantes dames comme il connaît bien les mœurs de notre peuple. Et les hauts puissants dignitaires ajoutaient les mœurs et les besoins. Valentine se donnait beaucoup de mouvements autour de Solomine, mais l'insuccès évident de ses tentatives la décourageait, et, en passant près de Kalomeitsev, elle ne put s'empêcher de dire à demi-voix « Mon Dieu, que je me sens fatiguée !» À quoi l'autre répondit avec un salut ironique « Tu l'as voulu, Georges Dandin !» Enfin, après la recrudescence d'amabilité et de compliments qui précède ordinairement l'instant de la séparation dans une compagnie où l'on s'est bien ennuyé, après les soudaines poignées de main, les sourires et les nasillements amicaux que commande l'usage, les visiteurs et leurs hôtes, aussi fatigués les uns que les autres, se séparèrent. Solomine, qu'on avait mis dans une des plus belles chambres, sinon la plus belle, du 2e étage, avec toilette à l'anglaise et salle de bain, alla trouver Nejdanov. Celui-ci commença par le remercier chaudement d'avoir consenti à rester. « Je sais, lui dit-il, que c'est pour vous un sacrifice. »« Allons donc, lui répondit Solomine avec sa manière tranquille. « Quel sacrifice y a-t-il là ? Du reste, je ne pouvais pas vous refuser ça, à vous. »« Pourquoi donc ? » ?»« Parce que je vous ai pris en amitié. Voilà tout. » Nejdanov se montra aussi heureux que surpris. Solomine lui serra la main. Puis il se mit à cheval sur une chaise, alluma un cigare et les 2 coudes appuyés sur le dossier. « Voyons, dit-il, de quoi s'agit-il ? » Nejdanov se mit aussi à cheval sur une chaise, mais n'alluma pas de cigare. « De quoi il s'agit ? Il s'agit que je veux m'enfuir d'ici. »« Vous voulez quitter cette maison ? Eh bien, à la grâce de Dieu. » »« Ne pas la quitter, mais m'enfuir. On vous retient donc ici ? Est-ce que par hasard vous auriez pris de l'argent d'avance ? « En ce cas, dites-moi, je me ferai un plaisir. »« Vous ne me comprenez pas, mon cher Solomine. J'ai dit fuir et non pas partir, parce que je ne m'en vais pas seul. » Solomine leva la tête. « Avec qui donc ? » ?»« Avec cette jeune fille que vous avez vue ici aujourd'hui. » »« Ah, elle a bonne figure. Alors, vous vous aimez ? Ou peut-être tout simplement, vous avez décidé de quitter ensemble une maison où vous vous sentez mal ? Nous nous aimons. » Solomine réfléchit un instant. « C'est une parente des maîtres de la maison ? » ?»« Oui, mais elle partage toutes nos convictions, et elle est prête à tout. » Solomine sourit. « Et vous, Nejdanov, êtes-vous prêt ?» Nejdanov fronça légèrement le sourcil. « Pourquoi cette question ? Vous me verrez à l'œuvre. » « Je ne doute pas de vous, Nejdanov. Si je vous ai fait cette question, c'est que, à part vous, je suppose, personne n'est prêt. » Et Markelov. « Oui, c'est vrai, il y a Markelov, mais celui-là est né tout près, je m'imagine. » En ce moment, quelqu'un frappa à la porte 2 coups rapides et discrets. Puis on entra sans attendre de réponse. C'était Marianne. Elle marcha tout droit vers Solomine. « Je suis sûr, commença-t-elle, que vous ne serez pas surpris de me voir ici à pareille heure. Il vous a tout dit, naturellement. » Elle montra du doigt Nejdanov. « Donnez-moi votre main et sachez que c'est une honnête fille qui est devant vous. »« Oui, je le sais, » répondit Solomine d'un ton grave. Il s'était levé de sa chaise dès l'apparition de Marianne. « Je vous regardais pendant tout le dîner et je me disais, « Quels yeux honnêtes elle a, cette demoiselle !» Nejdanov m'a parlé, en effet, de votre projet. Mais dites-moi au juste, pourquoi voulez-vous vous enfuir ?»«
Pourquoi ?
Mais l'œuvre à laquelle je sympathise. Ne soyez pas surpris, Nejdanov ne m'a rien caché. Cette œuvre commencera dans quelques jours, et je resterai dans cette maison de seigneur, où tout n'est que fausseté et mensonge. Ceux que j'aime vont courir des dangers, et moi, » Solomine l'interrompit d'un geste. « Ne vous agitez pas. Asseyez-vous, je vais m'asseoir aussi. Vous aussi, Nejdanov, asseyez-vous. Écoutez, s'il n'y a pas d'autre motif que celui-là, ce n'est pas la peine de partir encore. L'œuvre dont il s'agit commencera plus tard que vous ne pensez. Un peu de prudence ne gâtera rien. Il n'y a pas à se précipiter en avant comme cela, tête baissée, croyez-moi. » Marianne s'assit et s'enveloppa dans un grand plaid qu'elle avait jeté sur ses épaules. « Mais je ne peux pas rester ici plus longtemps. Ici, tout le monde m'insulte. Aujourd'hui encore, cette folle Dana ne m'a-t-elle pas dit devant Kolia, en faisant allusion à mon père, que la pomme tombe toujours près du pommier ?» Kolia, étonné, a demandé ce que cela voulait dire. « Quant à Madame Sipiagine, je n'en parle même pas. » Solomine l'interrompit de nouveau, cette fois en souriant. Marianne sentit bien qu'il se raillait un peu d'elle. Mais le sourire de Solomine ne pouvait jamais blesser personne. « Qu'est-ce qui vous prend, chère demoiselle? Je ne connais ni cette Anna, ni ce pommier auquel vous faites allusion. Mais quoi? Une sotte femme vous dit une sotte parole. Et vous ne pouvez pas supporter cela? Comment ferez-vous donc pour vivre? Le monde entier est bâti sur les sottes gens. Non, cette raison-là n'est pas bonne. En auriez-vous une autre? » J'ai la conviction, intervint Nejdanov d'une voix sourde, qu'un jour ou l'autre, M. Sipiagine va me renvoyer. On lui a certainement dit quelque chose. Il me traite de la façon la plus méprisante. » Solomine se tourna vers Nejdanov. « Eh bien alors, pourquoi vous enfuir, si vous êtes sûr qu'on ne doit pas vous garder ?» Nejdanov resta un moment interdit. « Je vous ai déjà expliqué, commença-t-il. Il a parlé de fuir, s'écria Marianne, parce que je pars avec lui. » Solomine la regarda, et secouant la tête avec bonhomie, « Oui, parfaitement, chère mademoiselle. Mais je vous le répète, si vraiment vous voulez quitter cette maison parce que vous imaginez que la révolution va éclater, c'est justement, interrompit Marianne, pour savoir où en sont les choses que nous vous avons prié de venir. » « En ce cas, reprit Solomine, je vous le répète, vous pouvez rester encore dans cette maison, et même assez longtemps. Mais si vous voulez fuir parce que vous vous aimez et qu'il n'y a pas d'autre moyen de vous réunir, En ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, selon la vieille formule, amour et concorde, et à vous aider dans la mesure de mes forces, si cela est nécessaire et possible. Car du premier coup, vous, mademoiselle, et lui, je vous ai pris en affection comme un frère. » Marianne et Nejdanov s'approchèrent de lui, d'un commun mouvement, et lui saisirent chacun une main. « Dites-nous seulement ce qu'il faut faire, » s'écria Marianne. La révolution est encore loin, soit, mais indiquez-nous seulement quelles sont les démarches, les préparatifs nécessaires, préparatifs impossibles dans cette maison et dans ces conditions, mais que nous ferions de si grand cœur, ensemble. Dites-nous seulement où il nous faut aller. Envoyez-nous. Vous nous enverrez, n'est-ce pas? Où cela? Au milieu du peuple, naturellement. Dans la forêt, pensa Nejdanov, qui se rappelait les paroles de Paklin. Solomine fixa un regard attentif sur Marianne. « Vous voulez connaître le peuple ?»« Oui, c'est-à-dire non pas seulement le connaître, mais aussi agir, travailler pour lui. »« Très bien, je vous promets que vous le connaîtrez. Je vous donnerai le moyen d'agir, de travailler pour lui. Et vous, Nejdanov, avez-vous l'intention de vous vouer à elle et au peuple ?»« Sans aucun doute, » répondit vivement Nejdanov. « Juggernaut, » pensa-t-il en se rappelant de nouveau les paroles de Paklin. « Voilà l'énorme chariot qui s'avance, j'entends déjà le grincement et le grondement de ses roues. « Très bien, » répéta Solomine d'un air pensif. « Mais quand avez-vous l'intention de fuir ?»«
Demain, si vous voulez. »«
Très bien. »«
Où ?»«
Chut, parlez plus bas, » murmura Nechtanov. « On marche dans le corridor. » Tous les trois se turent un instant. « Où avez-vous l'intention de vous réfugier ?» reprit Solomine en baissant la voix.
« Nous n'en savons rien, » répondit Marianne.
Solomine reporta son regard vers Nechtanov, qui fit un signe de tête négatif. Solomine allongea le bras et moucha soigneusement la chandelle. Puis il reprit « Écoutez, mes amis, venez chez moi à la fabrique. Ce n'est pas beau, mais vous serez en sûreté. Je vous cacherai. J'ai justement une chambre. Personne n'ira vous y chercher. Arrivez seulement jusque-là, et nous ne vous trahirons pas. Vous me direz que dans une fabrique, il y a beaucoup de monde. C'est justement cela qui est bien. Là où il y a beaucoup de monde, il est plus facile de se cacher. » « Ça va-t-il, hein ?»«
Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, » répondit Nechtanov.
Et Marianne, que l'idée de la fabrique avait d'abord un peu effrayée, ajouta vivement
« Oh oui, oui, que vous êtes bon. Mais vous ne nous garderez pas là longtemps, n'est-ce pas? Vous nous enverrez quelque part. »«
Cela ne tiendra qu'à vous. Et dans le cas où vous auriez envie de vous marier, j'aurai aussi ce qu'il vous faut pour cela. » Il y a dans le voisinage, tout près de la fabrique, un pope nommé Zosime, un brave homme très accommodant, qui se trouve être mon cousin. Il vous marierait en un tour de main. Marianne eut un sourire silencieux. Nechtanov serra de nouveau la main à Solomine. Puis, au bout d'un instant, « Dites-moi, lui demanda-t-il, le patron, le propriétaire de la fabrique, est-ce qu'il ne prendra pas tout cela de travers? Ne pourrait-il pas vous faire des désagréments?
« Ne vous inquiétez pas à mon sujet, c'est parfaitement inutile, » répondit Solomine.
« Pourvu que sa fabrique marche comme il faut, le reste lui est bien égal. Et ni vous, ni cette charmante demoiselle n'aurez à vous plaindre de lui. Vous n'avez rien non plus à craindre de la part des ouvriers. Seulement prévenez-moi, vers quelle heure faut-il vous attendre ?»
Marianne et Nechtanov s'entre-regardèrent.
« Après-demain matin, de bonne heure, ou le jour suivant, » dit enfin Nechtanov. Il n'y a plus de temps à perdre. D'un moment à l'autre, on peut me remercier.
C'est entendu, répliqua Solomine en se levant. Je vous attendrai tous les matins, et pendant toute la semaine, je ne m'absenterai pas. Toutes les mesures seront prises.
Marianne, qui avait fait un pas vers la porte, s'avança vers lui.
Adieu, cher Vassili Fedotitch. C'est bien ainsi que vous vous appelez?
Oui.
Adieu, ou plutôt non, au revoir, et merci, merci.
« Adieu, bonne nuit, ma chère enfant. »«
Adieu, Nechtanov, à demain, » ajouta-t-elle, et elle sortit rapidement.
Les deux jeunes gens restèrent un moment immobiles et silencieux.
« Nechtanov, » dit enfin Solomine, puis il se tut.
« Nechtanov, » reprit-il, « racontez-moi au sujet de cette jeune fille ce que vous pouvez raconter. Quelle a été sa vie jusqu'à présent? Qui est-elle? Comment se trouve-t-elle ici ?»
Nechtanov raconta brièvement ce qu'il savait.
Solomine l'écoutait avec une attention profonde.
Nechtanov, lui dit-il enfin, veillez bien sur cette jeune fille, car si jamais, s'il arrivait, ce serait bien mal de votre part.
Adieu.
Il s'éloigna. Nechtanov resta quelque temps au milieu de sa chambre, puis murmura, tant pis, n'y pensons plus, et se jeta sur son lit.
Marianne, en rentrant chez elle, trouva sur son guéridon un petit billet ainsi conçu.
« Vous me faites peine. Vous vous perdez. Réfléchissez. Dans quel abîme allez-vous vous jeter les yeux fermés? Pour qui et à propos de quoi? V. »
Un parfum frais et subtil était resté dans la chambre. Évidemment, Valentine venait d'en sortir.
Marianne prit une plume et écrivit au bas du billet « Ne me plaignez pas. Dieu sait laquelle de nous deux est la plus digne de pitié. Je sais, moi, que je ne voudrais pas être à votre place.
M. »
Elle laissa le billet sur la table, parfaitement sûre que sa réponse tomberait dans les mains de Valentine.
Le lendemain matin, Solomine, ayant causé avec Nechtanov et définitivement refusé la proposition de Sipiagin, retourna chez lui. Il réfléchit tout le long du chemin ce qui ne lui arrivait guère. L'ébranlement d'une voiture le plongeait ordinairement dans un demi-sommeil.
Il pensait à Marianne et aussi à Nejdanov. Il se disait que si, lui-même, avait été amoureux, il aurait eu un autre air, il aurait parlé autrement. Mais, ajouta-t-il, comme cela ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas du tout quel air j'aurais eu. Il se rappela une Irlandaise qu'il avait vue un jour dans un magasin, derrière le comptoir. Elle avait de magnifiques cheveux, presque noirs, et des yeux bleus, avec de grands cils. Elle le regardait d'un air à la fois triste et interrogateur. Il s'était longtemps promené dans la rue devant les vitrines. Plein d'agitation, il s'était demandé s'il ferait oui ou non sa connaissance. En ce moment-là, il était de passage à Londres. Son patron l'y avait envoyé pour des achats, en lui confiant une somme assez considérable. Solomine avait failli renvoyer l'argent et rester à Londres, tant avait été forte l'impression produite sur lui par la belle Polly. Il savait son nom, une de ses camarades de magasin l'avait appelé. Cependant, il avait fini par se vaincre, et il était retourné chez son patron. Polly était plus jolie que Marianne, mais celle-ci avait le même regard triste et interrogateur, et elle était russe. « Mais qu'est-ce qui me prend ? » dit-il tout à coup, presque à haute voix. « Voilà que je m'inquiète des fiancés des autres. » Et il secoua le collet de son manteau, comme s'il eût voulu secouer en même temps toutes les pensées inutiles. Il arrivait justement à la fabrique, et sur le seuil de sa porte apparaissait la silhouette de son fidèle Paul.